zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Cher auditeur, chère auditrice, bonjour. Vous écoutez Les Ondes Buissonnières, votre émission de pépites sonores, sélectionnée par la rédaction. Au programme, une immersion au cœur de 5 collectifs agricoles d'Occitanie. Dans ce premier épisode, on parle d'émergence de collectifs. Vous écoutez Paroles de collectifs agricoles.
Paroles de collectifs agricoles. Une enquête radiophonique de Marie Cheneval en 3 épisodes. Un documentaire sonore qui explore 3 thèmes auxquels se confrontent celles et ceux qui s'installent en collectif agricole. Travailler à plusieurs, c'est vivre avec les autres. Accepter les différences et partager les décisions. Dans un monde centré sur l'individu, ces collectifs tracent le sillon des communs et du faire ensemble. Épisode 1. Enjeux et phases d'émergence du collectif.
Ah ouais, bien sûr, vas-y. Je passe la musique.
Ah. C'est cool, c'est trop bien.
Comme fournir, ouais. Ouais, c'est marrant, ouais. Ouais, c'est fonctionnel et tout, c'est cool.
T'arrives à garder chaud. La chaleur.
Ouais. Ouais. Ah ouais, avec le chauffage, ça chauffe super bien.
De 2007, vraiment les premières fois où des jeunes non issus du milieu agricole sont arrivés à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, en disant on a envie de s'installer ensemble et on a envie de développer un projet collectif. Et ce mouvement prend chaque année un petit peu plus.
On a du bol parce que les terres étaient super préservées. C'est des prairies depuis 15 ans, on a des haies partout. Il y a vraiment une biodiversité ici qui est cool. Puis lui, il a du bol aussi de nous avoir rencontrés, parce qu'il pensait vraiment que ce soit un mot là. Parce qu'en famille, ils sont propriétaires de 3-4 bâtiments. Et c'était vraiment la paysannerie. Enfin, quand tu te racontes ces histoires, c'était vraiment la paysannerie pauvre même de l'époque, quoi, où ils étaient un peu en autosuffisance, quoi. Et du coup, il est nostalgique de ce temps-là où il y avait tout le temps du monde, où il faisait beaucoup de choses en collectif. Et là, il retrouve ça, quoi. Et c'est cool. C'est cool aussi pour lui. Et c'est cool pour nous, parce qu'on a pu accéder à des terres facilement. Et puis, ben, maintenant qu'il est à la retraite, ça y est, on en fait un match, quoi. On s'est bien implanté, nous. On connaît les voisins, maintenant, les paysans. Enfin, donc, c'est une belle transmission avec Bernard.
Ce que je vois qui amène ce développement-là sur les 15 dernières années, il y a plusieurs enjeux. En individuel, c'est très difficile en fait de mener une ferme avec polyculture, élevage, transformation, vente directe. C'est très compliqué. Et donc une partie des collectifs qui arrivent sont portés par cet idéal-là en fait.
Enfilé ! Allez, viens ! Enfilé ! Hein ?
C'est vachement plus calme en fait.
Parce qu'on est moins rapide.
Peut-être, je ne sais pas pourquoi. Donc, elle se positionne tranquillement. Même si elle fait un tour dans la sablure, elle revient, elle fait un problème.
La ferme de la Rose, on est dans le Lot. On est une ferme collective en polyculture polyélevage. Donc on a deux troupeaux, un troupeau de vaches salaires qui étaient jusqu'à maintenant menées en allaitante et qui vont être menées en mixte, allaitante et laitière. On a un troupeau de porcs de Bayeux. On cultive à peu près 80 hectares, donc en céréales et en prairies. Sur les céréales, donc on fait des céréales panifiables, du blé d'hiver, de printemps, avec des variétés anciennes qu'on sauvegarde depuis plusieurs années.
Bon, les gars! Oh, si elle n'est pas pleine, elle! Elle est énorme! Allez, sors!
Du petit épeautre, du seigle, on fait aussi du sarrasin. On cultive des céréales pour faire des graines pour le pain, donc on fait du lin, on fait du tournesol pour l'huile. On essaye de faire aussi du colza, c'est pas toujours évident. Ça c'est pour la partie culture. Ensuite on a du maraîchage depuis quelques années, un verger, soit des pommes anciennes, soit des variétés qui ont été sauvegardées. Le verger a été planté par le grand-père de mon associé, l'un de mes associés. Et je crois que j'ai fait le tour des activités.
Peut-être.
On produit surtout du lait de vache. On a 45 vaches laitières qui produisent 220 000 litres de lait. La ferme est en bio déjà depuis 25 ans. Ensuite, on a quelques cochons, c'est la deuxième activité animale. Après, on a des activités végétales. On fait de l'huile de colza à partir du colza qu'on produit. On ramasse des châtaignes qu'on vend en frais ou qu'on transforme. On fait du jus de pomme. Et depuis 2 ans et demi, on produit des pâtes sèches à base de notre blé dur. Et à côté de ça, on a aussi une activité d'accueil. Donc on accueille des classes scolaires et puis des centres de loisirs. En 83, j'ai travaillé 2-3 ans avec mon père qui était retraité mais qui me donnait un coup de main. Et puis quand j'ai construit la nouvelle salle de traite, donc mon père n'a jamais voulu traire la salle de traite, donc de 85 à 90, j'ai assuré toutes les traites, tous les jours, toute l'année. Sauf quand j'avais un copain sympa qui passait par là, qui connaissait un peu, qui voulait bien me remplacer, Mais sinon, j'ai assumé ça et j'ai dit que c'était incompatible avec une vie de famille, incompatible avec une vie sociale.
Ça permet aussi d'être en accord avec nos convictions, de dire qu'il faut de la diversité, il faut garder des productions anciennes. C'est vrai que la châtaigne, c'est un peu le cas. On le fait parce que c'était en place, parce que d'autres le faisaient avant nous et que c'était l'aliment de survie il y a 2 siècles ici. De préserver le patrimoine des châtaigniers, donc si c'est que pour avoir des châtaigniers, autant en tirer une petite rentabilité. Donc voilà, on essaye d'attacher les wagons les uns aux autres et faire quelque chose de cohérent.
La ferme de Segon se trouve en Aveyron, donc à l'ouest de l'Aveyron. Il y a 2 personnes qui sont sur le pain, la culture des céréales, la meunerie et les brebis allaitantes, donc des brebis viande pour les agneaux. Et de l'autre côté, 2 personnes qui sont vraiment sur l'activité maraîchage. Voilà, sachant que c'est donc 2 couples et un couple qui s'occupe du maraîchage, Pio et Oriane, et nous, Tatiana et moi-même, qui s'occupons donc des brebis et de l'activité paysan-boulanger. On s'est rencontrés une première fois, vraiment par hasard, à une journée de la Confédération Paysanne sur la transmission. On s'est croisés comme ça très rapidement. Et puis ensuite, on s'est installés à une 20aine de kilomètres de distance. Et il y a des paysans de la Confédération Paysanne qui nous ont un peu présenté les uns avec les autres parce que nous, on avait exprimé notre envie de s'installer en collectif, eux aussi. Donc on s'est rencontrés plusieurs fois, on a fait une petite déjournée de formation un peu avec l'ADR, de réflexion sur le collectif, avec la TAG aussi. Enfin, on a décidé un peu officiellement de commencer à chercher ensemble une ferme et un endroit où s'installer. Et donc, suite à des nombreuses recherches avec des hauts et des bas, on avait appelé ça les montagnes russes de l'installation, voilà, avec des grands espoirs et puis des grandes désillusions.
Typiquement, Sacha et Tati d'avoir leur activité, même sur un truc un peu précaire qui est un petit bail dans un petit local de la mairie, petit mais bon, fonctionnel, nous, sur quelques milliers de mètres carrés à Sourbin-Saint-Najac, mais déjà d'avoir des activités, c'est-à-dire que même si la recherche prend du temps, tu combles quelque chose avec, tu fais quelque chose quand même, et t'es déjà dans une activité de rapport au vivant parce qu'on cultive et aussi avec les gens. Et de ça, on découle aussi des relations qui t'amènent à ce maillage de réseau qui fait qu'on se rencontre avec Sacha et Tati, qui fait qu'on rencontre d'autres gens, qui fait qu'on a accès à de la formation de bah tiens, il y a une ferme, il y a des terres. Mais si on avait passé les mêmes périodes juste en mode on cherche, mais on n'a pas d'activité, on commence pas à mettre un pied dans le projet qui est ce qui nous animait, faire du pain pour Sacha et Tati et nous faire des légumes, ça aurait été vraiment franchement très long. Mmh. On croise des gens qui sont vraiment purement en mode recherche en disant je me mets un an à chercher. Et... Bon, déjà, enfin, débarquer juste parce que t'as vu un truc sur le bon coin. Maintenant, on part en des conseils, ça peut arriver, mais c'est quand même assez important d'avoir ce réseau et de s'implanter quelque part. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est préférable. Et ouais, heureusement qu'on a eu ça. Enfin, je sais pas comment on aurait fait, sinon.
Et au-delà de ça, moi, je le vois sur l'aspect installation maraîchère, en tout cas, ça a été très précieux pour nous, même si c'était pas du tout notre idée. Initialement, on voulait vraiment se lancer dans un projet et tout de suite être dans le brut, le technique, l'efficace, le pratique, tout ce qu'on veut. Mais de se tester une première fois sur un lieu, même si ça demande de l'énergie, de s'installer deux fois, de monter des serres, de prévoir l'irrigation, nous, ça a été très précieux dans le sens où quand on s'est réinstallé ici, après deux saisons et demie de maraîchage, on a complètement tout repensé en fonction de ce qu'on avait vécu pendant deux ans et demi. Au début, on avait énormément d'idéaux de pas utiliser de tracteur, de pas utiliser de bâche, de faire comme ci, comme ça. Et ben, en fait, on a bien vu qu'ici, on s'est réinstallé d'une façon complètement différente de celle qu'on avait pensée au début. Et ça a été très précieux pour nous, de pouvoir se questionner.
Techniquement, très matériellement, mais aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, socialement, humainement. Ouais. C'est tester aussi à travailler en couple. En arrivant ici, on dit, OK, bon, en fait, chacun sa parcelle, chacun ses légumes, chacun sa charge mentale. Pierrot, là, qui nous a dit, qui nous a juste au départ loué un petit bout de la ferme où on habitait. Et, vous êtes en BPRA, formation maraîchage. Si vous voulez, moi j'ai des petits bouts de terre, allez-y en fait. Et c'est lui, et c'est cette dynamique-là qui. Ouais, en fait, l'accueil, globalement.
Vous lui avez demandé.
Qui accueille tous les. Non, on n'a rien demandé.
Un peu les deux.
Pour les deux.
Mmh. Je crois que c'est une grande vue.
Oui, au début, ouais.
Ouais, c'est cet accueil de. Ok, vous avez un projet, je vais faire en sorte que vous puissiez un peu lancer le truc, quoi. Et ça, bon.
On est tombé face donc à des cédants qui voulaient vendre la ferme. Puis là, les voisins sont arrivés parce qu'ils ont eu vent de la vente qui commençait à se préciser. Et donc, ils sont arrivés, les voisins ont renchéri, ils ont été voir les anciens propriétaires, etc. Donc ça s'est monté un peu, du coup ils ont décidé de retirer le bien, ils ont décidé de le mettre à la SAFER. Ça s'appelle une rétrocession SAFER, c'est-à-dire que pour pas avoir à choisir et pas se mettre à dos les voisins, ils décident de mettre le bien en vente à la SAFER et c'est la SAFER qui arbitre et qui décide. Là ça a été la grosse désillusion et gros branle-bas de combat parce que dans ce cas-là la SAFER il faut réagir assez rapidement, il faut montrer patte blanche, montrer les financements, avoir les projets économiques ficelés, etc. On s'est activé sur tout ça, et puis on était quatre installations face autour de nous, que des agrandissements qui demandaient les terres, les voisins qui voulaient s'agrandir. Voilà, tout le monde, enfin, on avait l'impression quand même, en tout cas dans les textes et en théorie, on était ultra prioritaire. Il s'avère que, donc à la commission locale, les réseaux jouant, le syndicat majoritaire jouant énormément dans l'histoire et tout, ça s'est retrouvé hyper partagé au niveau local. Et donc à ce comité départemental, nous on y arrivait quand même assez pessimiste, parce que très souvent ils suivent la vie locale, et là la vie locale avait été plutôt pour l'agrandissement des voisins, plutôt que pour l'installation de 4 jeunes, ce qui était quand même un peu incroyable. Et donc au niveau départemental, on a eu du bol que, en gros, le directeur de la SAFER et puis les instances aient dit un peu au syndicat majoritaire « Oh, tranquille, à un moment donné, là, il faut qu'on les installe. » Donc là, voilà, on a un peu mis en branle avec la Confédération Paysanne aussi, et puis aussi par nous-mêmes, voilà, on a même fini avec un courrier à la préfecture, à la préfète directement, expliquant que dans notre histoire... Il y avait le maire qui était engagé, etc., et que peut-être il n'y avait pas tout à fait une impartialité au niveau local. Parce qu'en fait, dans cette commission locale siège normalement le maire, et là, nous, le maire était candidat à l'agrandissement. Dans ces cas-là, il n'a pas le droit de siéger, mais autant dire que l'adjoint qui l'amène, autant dire que c'est comme si c'est lui qui siégeait. Enfin, voilà, ils n'ont pas voulu tenter trop le diable. Il s'avère que c'était à 3 mois des élections de la Chambre, des élections Chambre d'agriculture, donc des élections syndicales. Ça aurait fait vraiment tâche que le syndicat s'oppose à 4 installations. Et ça commençait. Ils savaient que derrière, la conf allait médiatiser et on allait pousser dur. Ça commençait à parler d'occuper la SAFER. Enfin voilà, ils savaient que ça allait quand même bien. Et donc on a fini par réussir à obtenir donc 29 hectares sur les 32 qui étaient en jeu. On a eu deux gros trucs où on s'est un peu projeté. T'imagines bien qu'on en a visité. Et à la fois, il n'y en a pas des milliards. C'était très vite fait le tour. Parce que nous, c'était le fait d'avoir et de l'habitat et des terres. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ce qui est le plus compliqué. Enfin, des terres sous-entendu, pas le petit hectare autour de la maison de maraîchage qui est moins compliqué dans une certaine mesure. Mais le côté une ferme, quoi. Enfin, je veux dire, nous, pour notre activité, en tout cas, de 20-30 hectares. Et des maisons maisons d'habitation, les deux ensemble c'est hyper compliqué quoi. La SAFER elle adore, elle garde le corps de ferme, elle revend ça pour des gens qui mettent des chevaux ou un projet de maraîchage à la rigueur, et à côté ça part à l'agrandissement. Ça la SAFER ils adorent, c'est très simple, ils savent faire, c'est leur modèle quoi. Ils ne diront jamais ça dans le discours, mais dans les faits c'est ce qu'ils font. Donc d'avoir les deux en main ensemble, tu sais, t'as vite fait le tour quoi. Donc une fois que t'as fait le tour, c'est là où effectivement t'as fait le tour, t'es un peu excité au début, des visites, des machins. Puis après, t'es vite là, tu te rends compte qu'en fait, par les agences immobilières, les trucs, ça marche pas trop. Là, ça ferme, n'en parlons pas. Ils te sortent des fonds de tiroir qui n'arrivent pas à vendre depuis des années. Des trucs pas non plus si pires, mais des trucs assez chers et pas du tout bien foutus. Un bout de terre avec un bout de lac au fin fond d'un truc où t'as pas de chemin d'accès. Ou alors,
c'est pas plat.
Une espèce d'ancienne école, mais toutes les terres sont déjà promises aux voisins. Et puis t'as, voilà, enfin, il n'y avait rien de...
Il y a des gars qui ont 5-6 personnes, même en agriculture traditionnelle. Donc c'est pas nouveau, mais dès que ce sont des jeunes hors cadre qui arrivent sans expérience agricole ou qui ont une formation agricole, on va dire institutionnelle, de type ingénieur agro, on a la sensation qu'il y a une écoute relative. Souvent est mélangé le travail agricole sur la ferme et la vie collective. Ce sont des projets souvent où il y a de l'habitat collectif, ou d'habitats légers qui viennent se greffer. Donc il y a un mélange entre qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement sur la ferme et comment ils vont vivre, voilà, avec tous les guillemets qui peuvent exister. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire sur la ferme, autant les fermes traditionnelles agricoles vont être plutôt sur de la production, de la grosse production, vente en circuit long. Ça existe, c'est classique et on va dire ça fait partie du paysage traditionnel. Là, d'un coup, c'est de dire on a une ferme, le but c'est pas de s'agrandir, le but c'est pas de continuer à augmenter le capital, c'est plus de bien vivre de son travail et de, on va dire, d'être de la graine à l'assiette, donc d'être en lien avec le consommateur. Voilà, on est sur des profils très en lien, très en phase avec ce que la société donne à voir des attentes un peu sur du consommateur. Et donc c'est plus ça qui est questionné. Est-ce que quand on fait de la transformation à la ferme, on fait de l'agriculture? Est-ce que quand on fait de la vente directe, on fait de l'agriculture? Quand on fait de l'agrotourisme, c'est plus ce décalage-là qui existe aussi dans l'installation tout seul. Mais là, qui vient rajouter, on est plusieurs, ça fait un peu communauté. Et donc j'ai la sensation que les institutions de type SAFER, DDT, qui sont encore dans une vision de l'installation en agriculture, qui intègre pas bien ça, qui s'en méfie un peu, qui va exiger plus de choses dans le regard sur les projets d'installation.
Julien, Lucie et moi, Virginie, on a repris une ferme maraîchère en 2017. Donc c'était une ferme qui existait depuis une trentaine d'années, qui était déjà en agriculture bio quand on l'a repris. Lucie et moi, on a un cursus, on était dans la recherche en écologie, toutes les deux. Julien, lui, il a carrément une formation en agriculture. Et lui, il avait déjà bossé en tant qu'ouvrier maraîcher sur des fermes bio aussi. Donc lui, quand il s'est installé, il avait à peu près déjà 7 ans d'expérience. Je vais présenter aussi le quatrième, Alexandre, qui est arrivé au mois de juillet officiellement, qui lui, pareil, une formation d'ingénieur, reconversion et avec une formation plutôt sur l'arboriculture et qui a pour projet de développer un verger sur la ferme. Côté de Julien, lui, il se serait jamais senti les épaules de s'installer tout seul, même s'il avait l'expérience. Et c'est un peu sur la blague qu'on s'était fait avec Lucie, se dire oh, un jour on aura bien une ferme en Ariège. Jusqu'au jour où on s'est dit ben, pourquoi pas. Je crois qu'une des premières choses, c'était se mettre d'accord sur la ferme qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on attendait de ça ? Donc, à la base, on voulait un peu, on avait l'image de la ferme bucolique, le corps de ferme en Ariège ou dans un coin de campagne un peu reculé, avec dans l'idée d'avoir du coup du bâtiment, du logement à retaper et à côté de démarrer le maraîchage. Donc on avait ce critère du logement, on avait un critère de surface minimale pour nos cultures et aussi pour intégrer un cheval. Puis on a visité pas mal de fermes et à chaque fois on faisait la liste des pour et des contre. Et on a eu cette proposition-là de cette exploitation.
Vous avez monté combien d'arceaux là ?
Je sais pas combien. On a fini jusqu'à la moitié là. Peut-être une quinzaine. Et
après,
faut que tu rentres
un peu.
Et après, faut que nous, on incline comme ça.
Wow.
Ok. Oh. Baisse.
Ouais.
Oh, mais ça y va trop facile.
Ouais, c'est ça. C'est trop beau la vie, quoi.
Où là, il y avait tous les critères essentiels, les terres plates, l'eau à volonté, et la vue sur les Pyrénées, mais pas le logement. Et en fait, nous, quand moi je suis tombée enceinte, on a un peu revu ce critère-là, en se disant, on va pas imposer non plus un bébé à Lucie. Et on avait envie aussi d'avoir notre cocon familial. Et on regrette, mais alors pas du tout, de pas avoir eu ce logement en commun, parce que je pense qu'on se serait entretués. Les premiers mois, premières années d'installation, c'est difficile et il faut avoir ce temps où à un moment t'es chacun chez toi, tu ne parles plus de la ferme. Enfin, les conflits que tu vas avoir eu dans la journée, c'est bien de pas se rajouter en plus, faire des travaux de logement. Enfin, je pense on aurait explosé assez rapidement. On a démarré, on s'est dit banco, on se lance dans l'aventure en novembre 2015. Là, il faut attaquer plusieurs pistes à la fois. Je crois qu'on a trouvé en février-mars. C'est très très rapide. C'est très rapide de ce que nous on nous dit. Et on s'est dit, ce qu'il faut qu'on fasse, on va sur le marché à Saint-Girons, parce qu'il y a plein de maraîchers là-bas, et on va les rencontrer, et on va leur demander... Ben, comment vous avez fait pour vous lancer? Qu'est-ce que vous referiez? Qu'est-ce que vous ne referiez pas? Quels sont les conseils à donner à des porteurs de projets?
Donc l'association Préambule est une association qui se situe entre Villefranche de Rouergue et Figeac. Nous sommes 3 salariés en contrat aidé et 2 personnes au bureau de l'association, plus de multiples bénévoles. Actuellement, les tâches sont réparties de cette manière-là. 2 personnes effectivement qui produisent le pain, 1 personne qui produit les savons et... On va dire que sur ces 3 personnes, il y en a une qui est quand même beaucoup plus référente sur les cultures, sur les grandes cultures, sur les travaux agricoles. Voilà. Mais l'idée quand même, c'était de pouvoir tourner sur les différentes activités. Il y a l'idéal et il y a ce qu'on met en place au fur et à mesure des années avec la construction du projet, la reprise de la ferme.
Tu l'as posé par terre là-bas ?
Ouais. Là où j'avais posé, on va reculer là-bas.
Et toi, il te faut reculer pour...
Tu la portes un peu quand même.
Oh, mais
tu es lambert comme il va être. Il n'y a pas les genoux. Vous tournez.
Vous paraissez
à ce qu'on a bougé,
Bernard.
C'est bon. J'attendais que vous soyez chaud.
Merci.
J'ai l'avocat à côté.
On fout, vas-y.
L'idée de démarrage, c'était on relie ces deux mondes. Par rapport au travail social, on souhaite. Décloisonner les publics travail social, donc de pouvoir accueillir aussi bien des personnes sortant de psychiatrie, des personnes en accueil de jour, des personnes sortant de prison, d'avoir un accueil de jeunes en voie de déscolarisation ou déscolarisés, des accueils pédagogiques avec des écoles, de pouvoir accueillir des personnes migrantes, des personnes SDF.
Pour remplir ma gourde, c'est à la maison ou vous avez de l'eau?
De l'eau?
On va enlever la gouttière.
Il fallait la gouttière. Non, mais il y a eu des dégradations.
Non, mais c'est pas grave, je pourrais y aller.
Tu l'as où, la gourde?
Non, mais j'y vais.
Non, mais j'y vais.
D'ici que je trouve un bout de café en passant par là-bas.
Ah, bah oui, mais je veux le faire dire. Venez boire le café.
À un moment donné, on a voulu passer de l'idée au projet concret. Et là, on s'est confronté à la recherche des terres, à la recherche d'une ferme, à la recherche d'un lieu. Et puis, on a réalisé qu'on était ce qu'on appelle des hors-cadres familiaux dans le milieu agricole. Et on a réalisé la difficulté de trouver un lieu sur lequel on pourrait s'implanter. Par ailleurs, on connaissait Bernard, qui est un paysan avec qui on avait des relations. Certains d'entre nous avaient des relations, pas tous. Petit à petit, en discutant avec lui, un jour, il me dit « Mais votre projet, vous ne voudriez pas venir le faire chez moi, à la ferme ?» Ah bon, pourquoi pas, je sais pas. Donc on allait voir les terres. On s'est vraiment rencontrés avec Bernard sur deux envies qui se croisaient.
On avait tous les 4 un peu cet idéal et cette envie de construire quelque chose, tout simplement. De démarrer un projet, de le construire à notre image. Personne qui s'était posé la question de dire « Tiens, je vais intégrer vraiment un collectif déjà existant. » Alors déjà, il n'y en avait pas des milliers, des collectifs agricoles. Et puis au-delà de ça, là je parle plutôt pour moi, mais il y avait vraiment cette envie de reprendre une ferme familiale de taille moyenne qui est vouée à partir à l'agrandissement. Il y a des collectifs qui existent, pour moi ils trouveront toujours des gens pour les intégrer parce que voilà, ce qui est compliqué, la limite aujourd'hui pour l'installation, c'est vraiment l'histoire de capital et de foncier et de... Donc quant à ça, après intégrer un collectif, voilà, c'est de l'humain, c'est... Et voilà, et du coup, il y avait un peu cette idée de dire, les collectifs qui existent, c'est super, ils trouveront du monde pour s'enrichir, pour grandir, pour... Mais en fait, plus on est à en construire, et mieux ce sera, et donc il y avait vraiment cette envie-là, quoi. Si nous, on a la niaque et les capacités et la patience et je sais pas quoi, c'est pas ma qualité première, la patience, mais en tout cas, la patience collectivement de monter un projet, et ben faisons-le, quoi. Et si ça peut éviter qu'une ferme voilà de taille moyenne encore reprenable parte à l'agrandissement, parce que là nous clairement la question ici elle se posait pas, enfin c'était à 6 mois après, voilà, il y avait 3 voisins qui se partageaient 8 hectares chacun et c'était terminé. Ouais, c'est quelque chose aussi de militant, juste de s'installer sur ces fermes qui sont aujourd'hui de loin les plus menacées, quoi. Des petites fermes, ça se développe, il y en a plein. Les très grosses, bon, bah, il n'y a pas besoin de faire le topo. Et en fait, c'est la classe moyenne, mais bon, c'est un peu comme dans la société, quoi. C'est la classe moyenne des fermes qui est un peu menacée aujourd'hui. Enfin, en tout cas, dans le milieu agricole, elle est plus que menacée. Elle est vraiment, aujourd'hui, on est vraiment sur un schéma où ça prend 2 chemins, où ça bifurque vraiment complètement, quoi. On part sur des structures d'un côté de plus en plus grosses, qui produisent en conventionnel et qui veulent surtout qu'on les emmerde pas et qui inventent l'agribashing, etc. Et puis d'autre côté, les toutes petites fermes en circuit court, valeur ajoutée, vente directe, etc., etc. Et au milieu, pas grand-chose, quoi. Et voilà, et nous, moi, en tout cas, de mes idées, un de mes combats, c'est aussi celui-là, quoi, d'être sur une structure de taille moyenne, quoi. Que ce soit pas une micro-ferme et qu'il soit pas non plus une macro-ferme, quoi.
Il y a à peu près 7-8 ans, Basile, un des enfants de Serge et Pascal, avec sa compagne, ont décidé de revenir sur la ferme avec l'idée de reprendre l'exploitation, mais pas seul. Donc ils se sont d'abord intégrés, pris en main la ferme un petit peu, et puis dans une réflexion avec des institutions, tous les 5, ils ont... entamer des démarches pour ouvrir la ferme à des gens de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on est un peu tous arrivés au compte-gouttes. La ferme, à l'origine, c'est une ferme familiale qui a été montée par le grand-père de Basile dans les années 60. À l'origine, c'était orienté port industriel. Et donc, deux de ses fils, Jacques et Serge, se sont installés avec lui et ont décidé de transformer la ferme pour partir... vers du bio et du plus extensif. Et Pascal, donc la femme de Serge, les a rejoints. Et là, ils ont tous les trois monté la ferme telle qu'elle est aujourd'hui, donc avec le pain, les vaches, les porcs. Le maraîchage est arrivé plus tard. Donc ça, c'était la ferme ces 30 dernières années. Donc d'abord, il y a eu Jérémy et Laurine qui sont... arrivé en 2018, un peu par hasard, ils cherchaient à s'installer en maraîchage dans le Massif Central. Ils sont passés sur la ferme, passer le bonjour d'un ancien stagiaire avec qui ils avaient travaillé, parce qu'ils venaient d'Alsace. Jacques, Serge, Pascal, Basile et Berry leur ont dit c'est sympa, nous on cherche à installer des maraîchers, c'est une possibilité sur la ferme. Voilà, au fur et à mesure des discussions... Mais finalement, ils se sont décidés de s'installer ici. Entre-temps, Pierre Hugo avait fait un stage de CS porcin. Dans le processus d'installation de la ferme, ils se sont rendus compte que pour la transmission, il allait manquer un éleveur. Et donc, ils ont recontacté Pierre Hugo en lui proposant de venir s'installer sur la ferme pour reprendre en main l'élevage de porc. Et encore en parallèle, donc en même temps, moi j'étais dans le Lot et je cherchais à m'installer et j'ai fait une formation avec la DEAR. Donc j'ai rencontré Jérémy qui lui aussi faisait la formation et on a bien sympathisé. Puis je suis venue donner un coup de main pour monter la première serre.
Moi j'ai pas les cartes techniques. J'ai jamais eu la chance d'apprendre. À l'école de ça.
Les jeunes, elles ont appris à faire du pain avec toi ou elles sont allées aussi dans d'autres fournies?
À la fois, elles ont appris avec moi, elles ont été dans d'autres fournies, elles se sont bien appropriées leur fabrication. Parce qu'il ne suffit pas de reproduire, en fait, il faut comprendre.
Et donc, le tuilage avec elles, ça a duré combien de temps finalement?
Beryl, ça fait 7 ans qu'elle travaille sur la ferme. Et elle a vraiment eu envie de prendre des fabrications et en 2019. Et comme Laurine, ça lui plaisait bien aussi. Maintenant, elle se partage la grosse fabrication du vendredi de 100 kilos. Et elles savent cela le gérer bien. Moi, elle me laisse la petite fabrication du lundi pour me ménager. Hop là.
On défend vraiment le côté de ce volet-là de l'agriculture, quoi, l'agriculture paysanne. Donc c'était des vieilles parcelles avec des haies, beaucoup de haies. On a dû réouvrir des parcelles pour que la moissonneuse puisse passer. Il y a tout un chemin d'accès à nos terres pour la moissonneuse parce que c'est des grosses machines et que clairement ben, c'est des chemins à l'ancienne. Et donc il y a vraiment une volonté de préserver le territoire et les terres telles qu'elles sont. Bernard ne souhaitait pas que ces terres partent à l'agrandissement. Et nous, on pourrait être vus par d'autres agriculteurs du coin comme des uluberlus ou de se poser la question de qu'est-ce qu'ils font. Il y a cette question, mais est-ce que c'est rentable et comment et pourquoi.
Aller rencontrer le monde agricole, c'est le rencontrer par des portes d'entrée différentes. La porte de l'installation est la porte officielle, mais faire des stages dans des fermes, c'est déjà avoir, tiens, finalement, c'est quoi la vie agricole. Et puis, c'est quoi, moi, ma relation avec la vie agricole. Et dans un collectif, ce qui est important pour cheminer, c'est de faire des choses ensemble, pour aller vérifier si, effectivement, entre l'idée qu'on en a et ce qu'on veut vivre, il y a une vraie adéquation. Mais aussi de faire des choses tout seul, pour que chacun s'enrichisse de ses petites expériences ou ses petites rencontres au sein du réseau. Et puis après, on rassemble ces informations-là. Donc j'aurais tendance à dire, aller voir des gens, aller rencontrer des collectifs, mais pas que des collectifs. Remettre en doute aussi, de façon un peu forcée, est-ce que vraiment j'ai envie de m'installer en collectif et est-ce que, voilà, d'aller vérifier que c'est bien ça. D'avoir un peu d'expérience partagée ensemble pour se montrer aussi et vérifier comment est-ce qu'on vit quand on va rencontrer la chambre d'agriculture à 5-6, à quoi on ressemble en fait, quand on va voir, est-ce qu'il y en a un qui parle pour les autres, est-ce que voilà, tous ces éléments-là. Donc c'est faire les deux pieds, des choses tout seul, on partage après. Et les différents acteurs, à part ces deux-là, en tout cas, dès qu'on va voir ces deux-là, d'un coup, il va y avoir un panel d'acteurs à les rencontrer après, parce que nous, notre objectif, c'est aussi de dire, voilà comment on peut vous accompagner, mais voilà qui peut vous aider sur tel et tel point. Si on veut s'installer en bio, on va aller chercher des infos sur la bio, et donc on va rentrer dans le réseau des bio, et donc on va aller aussi voir des fermes. Donc ça fait plusieurs réseaux qui se croisent. C'est important, je pense, de pouvoir aller s'ouvrir à d'autres formes, même si on n'est pas sûr de s'installer en bio. D'un coup, on sait que là, il y a un réseau, il y a une expérience, il y a des projets qui ont été atypiques à une époque, et donc le collectif aujourd'hui, c'est un peu atypique. C'est aussi d'aller vérifier comment on va être reçu. La question des syndicats, je pense que c'est important aussi pour se rendre compte, avec un point de vue plus politique, de qu'est-ce qu'on amène quand on amène un projet collectif dans un territoire, qu'on ne perçoit pas, obligatoirement. Et puis, dans quel monde politique on est quand on est dans le monde agricole, qui a une vraie histoire syndicale, mais politique à l'échelle française et mondiale. Donc se dire, en fait, je deviens un acteur de ça. Est-ce que j'en suis conscient ou pas? Donc ça peut être un moyen aussi de démultiplier les façons de voir et les réseaux derrière. Voilà, pour commencer, ça peut être...
C'était Enjeux et phases d'émergence du collectif. Premier épisode de Paroles de collectif agricole réalisé par Marie Cheneval. Un grand merci aux collectifs qui ont participé à ce projet. La Ferme du Marigot, le GAEC du Maté, l'association Préambule, le collectif de la Rose et la Ferme de Segond. Ainsi qu'à Virginie Rousselin de la TAG et Yves Bruel de l'ADR du Lot pour leur témoignage. Prise de son et montage réalisé par Marie Cheneval en 2022. Mixage, François Berchenko. Production Ardéar Occitanie et ATAG dans le cadre du projet Lauréat Arpida 2020 Agricole. Installation agricole collective et transition agroécologique.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.